Bonjour, je suis Charlotte Coulot, chanteuse et pianiste de la région Occitanie. J'ai le plaisir de vous convier à un rendez-vous mensuel autour de la voix, dans lequel il sera question de la voix dans tous ses états. Mes invités seront des hommes et des femmes d'exception qui connaissent les secrets de la voix par cœur. Ils nous livreront tous leurs conseils de pro pour avoir une belle voix, prendre soin de notre voix et rayonner avec. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous chaque mois dans cette émission. Charlotte vous montre la voix. Allez, c'est parti pour cette deuxième émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une chanteuse hors norme, puisqu'il s'agit de Nicole Rieu. Vous êtes une femme d'exception aux talents multiples. Personnellement, je vous considère comme une icône majeure de la chanson française et nous avons le plaisir de vous avoir dans la région. Nicole, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir rejoints dans les studios de Radio Galaxy. Pour nos auditeurs, en quelques lignes, je vais reprendre votre parcours magnifique. Vous débutez votre carrière en 1969, vous avez plus de 50 ans de carrière. Votre immense parcours est marqué notamment par l'enregistrement de nombreux disques, signés dans des boîtes de production les plus prestigieuses, comme Disque AZ, Barclay, Philips, Polygram, Universal et bien d'autres. Votre production discographique, entre les singles, les albums, les compilations, les DVD ou les participations à d'autres albums, représente pas moins de 80 parutions, ce qui est énorme. Vous êtes évidemment connue pour avoir été la représentante de la France à l'Eurovision en 1975 avec la chanson « Et bonjour à toi l'artiste ».
Qui change tout. Tu nous offres la musique comme un cadeau. Toi, le magicien des temps nouveaux. Et bonjour à toi, le peintre de la lumière qui connaît toutes les teintes de l'univers.
Compte plus les plateaux de télévision et les partages de scènes avec les plus grands noms de la chanson française, comme Charles Aznavour, Michel Fugain, Sacha Distel, Demis Roussos et plein d'autres. Vous avez chanté dans toute l'Europe, au Canada, et continuez encore à vous produire partout en France. Franchement, votre passion vibrante pour la musique et le chant que vous communiquez d'ailleurs si bien vous porte à sortir encore en 2023 un nouvel album intitulé « Et la vie coulée ».
Et la vie coulait de jour en jour, de vague en vague. Et le temps lissait tous les contours, tous les zigzags. Plus le vent filait, moins j'avais l'âme à la dérive. Et me voilà aujourd'hui près de la rive. Et la vie coulait de jour en jour, de dune en dune. Et mon chant portait tous mes espoirs au clair de lune. Plus les jours passaient et plus légère mes valises. Et me voilà aujourd'hui près de.
Nicole, vous dites dans une interview « J'ai une vie banale comme tout le monde, j'ai des joies et des peines, des plénitudes et des solitudes, mais j'ai la chance de pouvoir m'exprimer en chantant et je ne le fais pas, comme le disait Ferrat, pour passer le temps. » Alors Nicole, que veut dire pour vous « s'exprimer en chantant »
Alors j'ai l'habitude de dire que dans le ventre de ma mère, je devais chanter déjà. Parce que je pense que pour moi, ça a été tellement... naturel, J'ai eu la chance d'avoir une maman qui aimait bien chanter et qui aimait bien partager avec mon frère et moi son plaisir de chanter, de nous apprendre des chansons. Et je crois que j'ai, en même temps, j'ai parlé et j'ai chanté. Voilà. Pour moi, c'est essentiel, quoi. C'est vraiment, sauf, alors, je mets un petit bémol, parce que, avançant en âge, je me dis, il arrivera peut-être que ma voix ne sera plus ce qu'elle est, ou ce qu'elle était. Et le jour où je ne serai plus fière de ma voix, j'arrêterai de chanter, mais voilà, ce sera vraiment décidé, ce sera un acte volontaire.
Votre voix est cristalline, elle est précieuse. On vous voit toujours avec le sourire. Vous dites de vous-même que vous êtes une personne gaie. Est-ce que la gaieté s'entretient? Est-ce qu'il faut sourire pour chanter?
Ah bah oui, moi je préconise ça parce que j'anime des stages de chant, mais pas de technique vocale parce que personnellement j'en ai pas. Enfin j'en ai, mais j'ai pas envie de transmettre ça en tout cas. Pour moi, c'est très important quand on parle ou quand on chante d'avoir les pommettes qui se soulèvent et donc les côtés de la bouche qui se soulèvent aussi. Parce que même quand on chante, ce qui m'arrive quand même assez souvent, des choses graves de la vie, eh bien, la voix est beaucoup plus jolie et plus aérée, plus vivante.
D'ailleurs, vous m'aviez confié lors d'une dernière rencontre que vous aviez eu un professeur de chant ou une dame qui vous avait dit « Moi, Nicole, je n'ai rien à vous enseigner ».
Ah, alors ça a été ma première, oui. Mon premier contact avec une prof de chant, c'était une dame qui était effectivement très connue dans le monde de la variété. Elle coachait aussi bien Jane Birkin que Julien Clerc, que tous les chanteurs qui démarraient à cette époque-là. Et donc, quand je suis revenue de l'Eurovision, et que j'ai vu à quel point le trac pouvait me bouffer, quoi, enfin m'empêcher de maîtriser ma voix. Je suis allée la voir sur les conseils de mon directeur artistique. Et puis donc, au bout d'une heure, elle m'a dit « Bon, bah, j'ai pas besoin de vous revoir, j'ai rien à vous apprendre. » Et moi, tout à fait bêtement, parce que j'étais très jeune et sans doute j'étais fière de moi. J'ai pas l'impression en plus que j'étais comme ça. Mais en fait, bon, moi, j'ai entendu que j'avais rien à apprendre. Mais c'était faux. C'est qu'elle, elle avait rien à m'apprendre. Mais moi, j'avais énormément à m'apprendre. Et d'ailleurs, quand on entend mon premier enregistrement sur Je suis, on entend Je suis, ruisseau, fleur, rivière, je suis. Et je ne savais pas respirer, mais personne n'a été capable de me le dire à ce moment-là. Et ça a été bien plus tard que j'ai, c'est pas par des cours de chant, mais j'ai fait du Qigong. Et donc par le Qigong et par une technique aussi de kiné Mézière, j'ai appris à me tenir plus droite, à faire en sorte que j'avais une attitude beaucoup plus droite et plus active pour chanter.
Alors, peut-être qu'à l'époque, on coupait pas la respiration. Maintenant, je sais que dans les albums très récents, ils ont des machines ou des outils vraiment pour enlever ces respirations un peu trop présentes. Mais j'imagine que s'ils l'ont pas fait aussi, peut-être à l'époque, c'était qu'ils étaient captivés par la beauté de votre voix et que dans ce cas-là, on n'entend pas la respiration un peu trop présente.
Alors, je reviens sur ce que vous dites par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les techniques sont au maximum, hein. Quelqu'un qui va chanter complètement désaccordé, on va le réaccorder, il n'y a pas de problème. Mais si tu coupes la respiration, la voix n'est plus vivante. Parce qu'on a besoin d'entendre qu'on prend son souffle aussi. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, on enregistrait... je vous parle d'un temps que les moins de je ne sais pas quel âge ne peuvent pas connaître. Mais quand on était en studio... Bah, moi, j'ai eu la chance aussi, par exemple, le premier disque, les deux premiers 45 tours que j'ai fait avant de faire Je suis, on était tous, les musiciens et moi, dans le studio et on chantait en direct.
Et, oui.
Et ça, c'est moi, je l'ai vécu. Voilà. Maintenant, ça, c'est totalement impossible.
Et par exemple, à ce sujet, pour votre dernier album, est-ce que tous les musiciens ont joué ensemble, vous avez chanté en même temps que vous jouiez de la guitare ou bien vous avez... pris cette nouvelle technique et puis séparer les instruments ou...
Bah oui, on est obligé de toute façon parce qu'aujourd'hui on a des techniques qui sont comme ça. Mais avant, bah on les connaît, on répète, on joue Par contre, le bassiste et le batteur ont joué ensemble. Ça, c'est important. Alors, je fais des voix quand ils jouent. Je chantais en même temps qu'eux, mais j'étais coupée d'eux par une cabine. Et ils entendaient ma voix pour qu'ils puissent sentir ma sensibilité à ce moment-là, mon émotion, et pour qu'ils puissent vibrer dans la même émotion, parce que c'est très important.
Oui, je crois savoir que vous avez une hygiène de vie remarquable. Est-ce que cette hygiène de vie est due à votre éducation ou bien c'est une stratégie qui est mise en place pour préserver votre voix et aussi la longévité de votre carrière, hein?
Alors, il n'y a pas du tout d'intention, c'est que je suis comme ça. Je viens plutôt du sport, j'étais très sportive quand j'étais ado. D'ailleurs, à cette époque-là, vous pouvez même pas imaginer que je serais professionnelle dans le monde de la chanson, parce que ça se faisait pas, parce que c'était pas un métier, surtout pour une fille. Et donc, j'étais branchée sur le sport, et moi, je voulais être prof de gym. Sauf que je n'ai pas pu rentrer dans l'école qui prépare, le CREPS, hein, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça maintenant, toujours.
Je crois que si.
Parce que à cette époque-là, ma vue ne me le permettait pas. J'étais très myope et donc on ne pouvait pas être prof de gym si on était myope. Voilà.
Vous pratiquiez quoi comme sport?
Je faisais des sports collectifs, hein, j'ai fait du handball, j'ai fait du basket malgré ma petite taille. Mais bon, j'y ai joué quand même. Et puis surtout de l'athlétisme. Moi, j'étais branchée sur l'athlétisme, sur le sprint et sur le saut en longueur, bien sûr, ce qui va avec. Et le relais, 4 fois 100 mètres. On a même battu avec mes copines, on a battu le record en tant que junior, on a battu le record du 4 fois 100 mètres dans notre académie.
Et vous continuez le sport aujourd'hui? Enfin, vous avez une activité physique toujours, en vous disant que ça vous aide pour votre voix ou vous séparez complètement les deux?
Pour moi, c'est pas d'un côté il y a la chanteuse et de l'autre côté il y a la femme. Pour moi, ça fait partie de mon hygiène. Bon, bah c'est vrai que moi j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu d'alcool. Je vis à peu près normalement, comme vous le disiez que je l'avais dit. je suis quelqu'un de tout à fait normal et j'aime la vie à la nature, dans la nature. J'aime marcher et tout ça. Alors évidemment, le sport il change au fur et à mesure de l'âge aussi. Et donc, ce matin, j'avais mon cours de Qigong, par exemple, et de bâton chinois. Et puis demain, je fais de l'aïkita iso. Et puis, je marche chaque fois que c'est possible. Je fais de l'aquagym. Hein, voilà.
Alors, comme je disais en préambule, vous avez toujours un agenda bien rempli avec des tournées et des concerts partout en France. Pour vous, il est toujours vital de vous produire?
Ah bah oui. J'allais dire, même quelles que soient les conditions, non, ça faut quand même pas exagérer, mais quand les conditions sont réunies par rapport à l'accueil de l'artiste, moi j'accepte beaucoup de concessions. Et ce qui m'importe depuis que j'habite l'Ariège à plein temps, enfin sauf pendant que je fais des tournées bien sûr, je trouve ça très important de venir dans les villages et de chanter dans des villages, là où il n'y a pas forcément des gros concerts. J'aime bien aussi chanter pour des publics défavorisés, parce que quand on a ce don, puisque c'est un don, hein, quand on a une voix, ben voilà, c'est j'y peux rien. C'est dommage de le garder, puis de le garder que pour faire des disques ou des gros concerts, quoi.
Et Nicole, où est-ce qu'on peut vous voir en concert prochainement?
Ah ben là, j'en ai un qui se prépare. C'est le 16 décembre. C'est un concert de Noël pour des enfants et ça se passe dans un endroit magique puisque c'est à la grotte de Lombrive. Donc c'est en Ariège, hein, du côté de Tarascon, sur Ariège et à Ussat plus exactement, et dans la grotte, quoi, voilà, avec les petites lumières. Mais là je pense que je serai seule
en solo,
donc avec ma guitare bien sûr, et puis il y aura peut-être des enfants qui vont chanter avec moi aussi d'ailleurs. Vous savez, c'est très varié, hein, ce que je fais. Je vais depuis quelques années aussi, on développe de plus en plus. On en parlait justement avant l'émission, comme il y a beaucoup de difficultés pour trouver des concerts. Il y a des choses qui se développent, c'est de chanter chez l'habitant. Et ça, c'est quelque chose que j'aime infiniment, parce que moi, j'aime les gens. Voilà. Donc, quand je suis à côté d'eux, quand ils m'entendent respirer, quand il voit tous les gestes que je fais, quand il n'y a aucune barrière entre eux et moi, il se passe quelque chose en plus aussi.
D'ailleurs, je crois savoir que dans vos concerts, vous mettez un point d'honneur à faire une ou deux chansons a cappella pour avoir vraiment cette proximité avec le public. Pourquoi c'est si important pour vous d'enlever le micro à ce moment-là et d'être en résonance avec la salle, hein?
Pourquoi? Parce que je peux.
Oui, vous avez la voix pour.
Parce que je peux. Et puis parce que c'est vrai que quand on est sur la scène, on a les lumières en face, donc on ne voit rien. On ne voit qu'une espèce de trou noir devant soi. Et moi, j'aime bien voir les yeux des gens. C'est pour ça que j'aime bien chanter en très proximité, quoi. Parce que à ce moment-là, il se passe quelque chose d'âme à âme, oserais-je le dire, hein, entre les gens qui écoutent et qui plongent leur regard dans le mien au moment où je leur chante quelque chose qui les concerne. Parce que tout ce que j'écris, ça concerne tout le monde. Donc, pour moi, c'est très important de faire ça et puis de sortir de mon espace lumineux pour aller dans le public. C'est très important.
Et quand vous enlevez le micro comme ça, ça fait une différence pour vous de chanter sans micro, avec le micro? Est-ce que vous appréhendez le fait d'enlever l'amplification?
Ah ben non, je ne l'appréhende pas parce que je sais que je peux. Mais bon, c'est un autre rapport parce que là, il n'y a plus rien entre ma voix et leurs oreilles. Et c'est quand même si j'ai une très bonne sonorisation, des bons micros et des bons amplis, c'est pas la même chose. Quand on se parle comme ça, d'ailleurs, là, moi, j'enlève la moitié du casque. Et quand j'enregistre aussi, c'est pareil. Il faut que j'entende la voix en vrai. J'ai besoin de ça, quoi. J'ai besoin de la vérité, en fait.
Donc, micro, pas micro, pour vous, vous changez rien à votre vocalité?
Ah bah si, quand même.
Ah.
Bah, c'est-à-dire que je ne pourrais pas chanter certaines chansons dans lesquelles je passe dans l'infiniment ténu, dans la voix très, très fine, sans micro, ce ne serait pas audible. Donc, je me sers de ça, je m'en sers. Vous êtes chanteuse, vous savez, on peut servir du micro pour quand on chante. Voilà.
Oui, c'est aussi pour nos auditeurs. Diriez-vous, pour revenir un petit peu sur le début de votre carrière, que le cheminement vers le succès a été limpide ou que ça a été un parcours semé d'embûches? Et si embûches il y a eu, quelles répercussions ça a eu sur votre désir de chanter?
Pouf, il y a beaucoup à dire là. Il y a beaucoup à dire parce que le succès est arrivé. Bon, en fait, moi je suis arrivée à Paris, signé par un monsieur très important, c'était Lucien Maurice, qui était le directeur d'Europe 1 et le directeur des disques AZ. À l'époque, c'était une des plus grosses maisons de disques. Et j'ai eu la chance d'auditionner chez lui, mais comme ça, en vrai, j'avais ma guitare et je lui ai chanté des chansons. Et lui, il ne se tarissait pas, il me disait toujours « t'en as d'autres ». J'étais très jeune, mes parents étaient avec moi parce que j'étais mineure et puis que j'aurais jamais osé aller à Paris toute seule. Et donc, ça a été un déclencheur extraordinaire, quoi. Mais j'ai l'impression de ne jamais m'être rendu compte des choses au moment où elles se sont passées. C'est après que je me suis dit, mais ah là là, la chance que j'ai eue d'être marquée par quelqu'un comme ça, parce qu'aujourd'hui, ça ne peut pas arriver. Un directeur de maison de disques ne va pas auditionner ou une chanteuse comme ça chez lui, dans son bureau. Oui. Alors, j'ai fait 2,45 tours, mais qui n'ont pas marché sur le plan commercial, mais j'ai tout de suite été embringuée dans le monde de la scène. Faut savoir que je suis arrivée à Paris au mois de septembre ou un truc comme ça, 69, et janvier 70, je suis partie en tournée avec Adamo, la grosse star de l'époque, et qui était une de mes, pas idoles, parce que j'aime pas du tout ce mot-là, mais quelqu'un que j'aimais beaucoup et dont je chantais les chansons. Donc imaginez la petite provinciale qui arrive, toute timide, qui fait deux chansons. Et puis Salvatore Adamo venait me dire bonjour. Il était d'une gentillesse qui n'est pas du tout une légende. C'était vraiment un homme formidable et il doit l'être toujours d'ailleurs. Et donc bon, il y a eu ça. Et puis après, le succès est arrivé. Mais je ne me suis même pas demandé comment il est arrivé, quoi. C'est... D'un seul coup, je faisais mes courses et puis les gens me reconnaissaient. C'était marrant, c'était amusant. Puis On était dans une période, hein, c'était quand même, on finissait les Trente Glorieuses, donc c'était extraordinaire. La musique à cette époque-là, il y avait énormément de tournées. Moi, j'ai chanté avec les plus grands de l'époque, et puis le succès est arrivé. Donc, dans les émissions de radio, de télé, ben, moi, j'étais une bonne cible, parce que j'avais le vent dans le dos. Hein. C'était pire que le Mistral hein, qui me soufflait dans le dos à ce moment-là. Et il m'invitait, pourquoi ? Parce que j'avais ma guitare, parce que je pouvais faire des duos, parce que je chantais naturellement. J'ai des souvenirs incroyables, quoi, incroyables.
D'ailleurs, on vous écoute en duo en 1974 avec Sacha Distel dans la chanson « Je suis ».
Je suis l'onde sur la grève, je suis feuille au gré du vent.
Je suis l'ombre des ténèbres, je suis le temps.
Je suis l'esprit, l'étincelle.
Je suis l'espace infini.
Je suis la petite abeille.
Je suis
la pluie.
C'est peut-être l'automne, c'est peut-être l'hiver, c'est peut-être l'été.
Il fait si chaud, je suis l'unique, le glorieux.
Nicole, on a parlé du succès et puis... Est-ce que finalement, il y a eu quelques embûches sur ce parcours ou pas tellement ?
Alors, je pourrais parler beaucoup plus longtemps des embûches et des difficultés que du succès, parce que le succès, ma foi, c'est du bonus, hein, c'est formidable. Et puis, un jour, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un désamour des médias, déjà, qui m'aide moins quand je sors un disque. Et puis, forcément du public, parce que le public, il prend ce qu'on lui donne. Et si on lui donne plus, il le prend plus. Et ça lui manque pas.
Et ce désamour des médias, il vient de quoi, à votre avis ?
J'en sais rien. Je pense qu'il y a une part de moi, parce que quand on est dans une spirale de succès, il faut être bien entouré, ce qui n'était pas mon cas. Mais ça, j'y peux rien. Mais c'est très bien comme ça, moi, avec le recul, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le recul, c'est drôlement bien, parce qu'on se rend compte que les choses, des fois les plus difficiles, servent à quelque chose qui va vous aider à développer quelque chose de l'intérieur, quoi. Et donc, pour moi, c'était beaucoup plus important de vivre bien mon désamour médiatique. C'était beaucoup plus important ça que de vivre bien le succès. Parce que il m'aurait manqué beaucoup de choses que je n'ai acquises que lorsque j'étais dans la panade. Parce que ça, c'est arrivé, plus les vautours qui arrivent quand il y a une bête qui est moribonde. Les vautours arrivent comme ici, en montagne. Hein, quand il y a un animal qui meurt, les vautours, ils sont là. On ne sait pas pourquoi. Il y en a 50 d'un seul coup, peut-être 500, qui s'acharnent sur elle. Par rapport à ce qu'on appelle le show business, c'est exactement la même chose. Donc, y a des mots qui font du mal, il y a des actes qui font du mal, et puis il y a des actes qui cassent carrément. Faut s'en sortir. Moi, je m'en suis sortie parce que même le succès, je l'ai pris avec du recul, quoi. Je l'ai pas. Je savais qu'un jour ou l'autre, il s'en irait. Je le savais. J'avais compris très jeune que le succès, c'est que l'apparence. Et c'est l'apparence qui se décline en dollars, en euros. Donc, dès l'instant où on n'a plus de valeur marchande, on n'existe plus. Alors, la difficulté, c'est que quand le succès s'en va, il ne faut pas se mettre en doute soi-même. Il ne faut pas penser que si ça ne marche plus, c'est de notre faute, c'est parce qu'on n'a plus de talent. Ce n'est pas vrai. Le talent n'a rien à voir avec le succès. Je vous donne des preuves, mais je ne dirai pas des noms. Mais il y a autant de gens... qui ont énormément de succès et dont personne ne parle, que de gens qui ont beaucoup de succès et qui ont beaucoup moins de talent.
Merci beaucoup Nicole pour cette première partie d'émission. On est loin d'avoir fini avec votre parcours et on va vous retrouver dans une seconde émission très 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 bientôt. En attendant, on finit sur En courant.
Par-dessus la mer, tu ne vois plus l'eau claire. Du courant, tu as perdu l'envie de rire. Tu ne sais même plus comment t'endormir. Tu voudrais que les arbres soient toujours verts. Par-dessus la mer, tu ne vois plus l'eau.